Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi. RTL midi 30, le journal inattendu est présenté par Marie Drucker. Marie, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre, bonjour Jade, bonjour Marie. À tous. Merci de rester sur RTL pour le journal inattendu de Laurent Deutsch, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous étiez à Angoulême pour signer votre bande dessinée dimanche dernier ?
Dimanche dernier, c'était tout bien. À fait, c'était très très agréable. Il faisait un froid terrible, mais heureusement le cœur des Angoumois nous ont réchauffé bien vite.
Bon, et vous allez réchauffer le nôtre aujourd'hui, auteur, comédien, historien, je vais dire historien avec un petit H, comme... comme ça on prend pas de risque.
Ouais, voilà. C'est mieux.
Oui, aujourd'hui rédacteur en chef du journal inattendu.
Au doigt mouillé, il faut.
Oui, c'est ça. Dans un instant le journal, puis à 13h après le rappel des titres, Stéphanie Renouvin viendra faire votre portrait, puis nous vous avons réservé quelques surprises, une surtout, j'espère qu'elle vous fera plaisir parce que normalement c'est le but. Mais tout de suite, c'est l'autoportrait, l'invité par lui-même, Laurent Deutsch par lui-même, vous avez 30 secondes, c'est parti.
Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Laurent Deutsch, je suis né le 27 octobre 1975 à Alençon, dans l'Orne, département qui doit son nom à la rivière du même nom. Après une délivrance heureuse, un bébé 3,5 kg, assez souriant, mes parents ont immédiatement migré vers Sablé-sur-Sarthe, dans la Sarthe, département qui doit son nom à la rivière du même nom. Après avoir tenté d'embrasser une carrière de footballeur à Nantes, Loire-Atlantique, département qui doit son nom à la rivière du même nom, j'ai finalement posé mes valises à Paris, département de la Seine, qui doit son nom évidemment à la rivière du même nom, pour entamer une carrière de comédien et de raconteur d'histoire. Voilà, Marie, rien que de très banal, somme toute. Finalement, je n'ai fait que comme l'écrasante majorité de nos départements français, je n'ai fait que suivre le cours de la rivière.
Oui, et de façon tout à fait inattendue. En tout cas, c'est une première depuis que je fais cette émission, sans aucune note. Merci
oui,
beaucoup.
Tout est dans la tête.
C'est ça.
Enfin, j'essaye.
RTL, 12h30, 13h30.
Le journal inattendu, Marie Drucker.
L'actualité de ce samedi, le débat marathon sur le mariage homosexuel s'est achevé à l'aube à l'Assemblée nationale après 24 séances de discussion. Le vote aura lieu mardi, puis le texte entrera en débat au Sénat. Préservé dans le budget de l'Europe mais en baisse, l'aide alimentaire aux plus démunis sera compensée jusqu'au dernier centime d'euro. C'est ce qu'a affirmé ce matin sur RTL le ministre délégué à l'agroalimentaire Guillaume Garot. Et puis nous essaierons de voir plus clair, pas facile franchement, dans cette histoire de viande de cheval substituée à de la viande bovine dans des lasagnes surgelées Findus, les victoires de la musique... Consacré pour la 28e fois, artiste en devenir et valeur sûre, Lou Doyon, meilleure chanteuse, Dominica, meilleur chanteur. Si vous ne les connaissez ni l'un ni l'autre, vous les entendrez dans ce journal. Et puis, la sidérurgie française est-elle en train de mourir? On peut se poser la question quand on voit que les sites ferment les uns après les autres. C'est un sujet qui vous préoccupe, comme nous tous. Laurent Deutsch, votre invité sur RTL. Édouard Martin, leader de l'ACFDT à l'usine ArcelorMittal de Florange. Enfin, une immense déchetterie au cœur des haras de l'Orne en Normandie. Les travaux sont déjà bien avancé, mais de nombreux propriétaires et associations se battent pour préserver l'environnement. Vous en faites partie, Laurent Deutsch, reportage à suivre. Et puis le temps, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Du beau temps, mais assez localisé.
Oui, dans l'Est, dans le Sud-Est, c'est tout, et encore pas la Corse qui va se faire arroser cet après-midi, sinon une dégradation est arrivée par l'Ouest, ça donne des pluies en ce moment de la Bretagne et même de la Normandie jusqu'aux portes de l'Aquitaine, dégradation qui va s'enfoncer dans le pays, en toute logique, vu l'état des températures ce soir, on aura droit à de la neige entre le Nord, l'Île-de-France, le Centre et le Massif Central, l'Est sera concerné demain. Les températures donc, elles baissent, fourchette de moins 1 à 10 degrés entre Saint-Étienne et Nice, 5 degrés cet après-midi midi à Paris, à Rouen, à Poitiers et à Tours.
Merci Valérie Quintin. C'est vous qui ferez la météo tout à l'heure à 13h, Laurent Deutsch.
Eh bien, avec grand plaisir. Où est la carte ?
Le journal inattendu sur RTL.
Marie Drucker.
24 séances, 10 jours de débat, 4999 amendements examinés. Le projet de loi sur le mariage homosexuel est déjà entré dans l'histoire de la 5e République par les passions qu'il a suscitées. Les discussions ont pris fin ce matin à 5h40. Bonjour Vincent Derosier.
Bonjour.
Et maintenant, que va-t-il se passer ?
Dans l'immédiat, rien. La plupart des députés ont déjà attaqué un autre marathon, celui du sommeil à rattraper. Mais prochaine étape politique, celle-là, ça sera mardi vers 16h15 pour le vote solennel à l'Assemblée. La majorité va dire oui en bloc. L'opposition UMP-UDI va se prononcer contre, à l'exception de deux UMP, dont Franck Riester. Mais attention, ce clap de fin ne veut pas dire que la droite a jeté l'éponge. Christian Jacob, le patron des députés d'opposition, promet de continuer la bataille.
C'est une belle victoire parce que elle a permis de révéler les dangers sur la GPA, vous faire reculer sur la PMA et apporter la démonstration de la mauvaise écriture du texte. C'est pourquoi nous sommes fiers d'avoir mené cette bataille et nous entendons bien continuer sur cette ligne-là. S'il y a encore quelques téléspectateurs, Twitter, auditeurs ou autres, eh bien rendez-vous le 24 mars, nous serons ensemble dans la rue.
Voilà, on a gagné, dit l'UMP, qui appelle une nouvelle fois à manifester, comme l'a fait Jean-François Copé au mois de janvier. Même si la droite, qui craignait que les Français ne se lassent et les tiennent pour responsables, est soulagée de passer à autre chose. Le texte va maintenant être examiné, sûrement un peu modifié au Sénat à partir du 18 mars. Puis il y aura une deuxième lecture à l'Assemblée, et pas sûr que les parlementaires aient envie de revivre ça.
Nous avons siégé 24 séances sur 10 jours. La durée totale de nos discussions a été de 109 heures et 30 minutes.
Ouais, pour éviter 110 heures de débat, l'UMP doit demander ce qu'on appelle le temps législatif programmé. Un maximum de 50 heures de débat répartis de la façon suivante. 60% pour l'opposition, le reste pour la majorité.
Vincent Derosier du service politique de RTL, merci. Laurent Deutsch, vous faites partie des artistes qui soutiennent le mariage pour tous.
Ouais, moi aujourd'hui je vois rien qui puisse empêcher la légitimité du mariage pour les personnes de même sexe. C'est la famille nucléaire, comme on l'entend, homme, femme et enfant, la sainte famille, c'est une notion monothéiste. Et aujourd'hui, depuis 1905, la vie civile s'est séparée de l'Église dans ses revendications et dans ses préoccupations constitutionnelles. Donc au niveau du mariage civil, il n'y a rien qui, moi, me fait douter sur la juste revendication des gens de même sexe à vouloir contracter un mariage civil.
L'adoption, la procréation médicalement assistée, la gestation pour autrui?
Disons que ce qui me fait peur, c'est le trafic des, enfin les mères porteuses, c'est le côté marchandage d'un enfant. C'est ça qui me fait peur et qui fait que pour l'instant, là encore, je suis hyper prudent et mesuré et je trouve qu'on s'engage vers quelque chose de délicat et même si quand on dit chaque chose en son temps, finalement, c'est préparer cette acceptation-là, on verra plus tard. Moi, pour l'instant, c'est quelque chose qui me fait peur. Ouais. Le fait de monnayer le commerce d'un enfant, c'est quelque chose qu'évidemment, on a envie de se refuser à ça.
Laurent Deutsch, rédacteur en chef du journal Inattendu. À tout de suite pour la suite du journal.
Laurent Deutsch prend les commandes du journal Inattendu sur RTL.
Avec Marie Drucker.
C'est donc d'un budget à la baisse qu'hérite l'Union européenne pour les 7 prochaines années. Un budget d'austérité et un compromis à minima pour la France qui se rassure avec la préservation de l'aide alimentaire aux plus démunis, mais dont l'enveloppe est réduite. Pas d'inquiétude pour autant, affirmé ce matin sur RTL Guillaume Garot. Chaque centime sera compensé. On écoute le ministre délégué à l'agroalimentaire. Il était au micro de Bernard Poirette.
Ce qu'il faut dire aujourd'hui, pour rassurer évidemment tous ceux qui nous écoutent, c'est que en France, ce sera compensé à l'euro près. Je parle d'une compensation par l'État, bien évidemment, mais si acteurs économiques sont prêts à faire un geste de solidarité, bien évidemment, ils seront les bienvenus. Ça veut dire que la solidarité ne diminuera pas dans notre pays.
Et réaction des associations d'aide aux plus démunis qui espéraient une aide alimentaire en hausse, sont-elles rassurées par ces propos du ministre? Olivier Berthe, président bénévole des Restos du Cœur, note l'effort du gouvernement, mais reste sceptique.
Des annonces de compensation, à supposer qu'elles soient dites officiellement par le ministre du Budget, le Premier ministre, nous semble un peu prématuré. Et puis, une annonce de compensation pour une année, c'est une chose, mais le budget européen, il court sur 7 ans. De 2014 à 2020, c'est-à-dire même au-delà du quinquennat du gouvernement actuel. Voilà pourquoi, pour nous, le combat aujourd'hui doit se situer à Bruxelles. Une compensation uniquement en France ne peut pas compenser aujourd'hui un signe de victoire quand on se bat pour que 18 millions d'Européens ne connaissent pas des carences alimentaires graves. Une fois que tous les combats auront été menés, il sera temps à ce moment-là, éventuellement, de parler compensation.
Olivier Berthe, le président bénévole des Restos du Cœur. Sait-on exactement ce que l'on a dans notre assiette? Depuis hier soir, on peut se poser la question quand on voit que la marque Findus retire du marché des lots de lasagnes estampillées viande bovine et qui contiennent en réalité plus de 60% de viande de cheval. Laurent Dodge, vous êtes très attentif à ce que vous donnez à manger à Sissi et à Colette.
Ouais, j'essaye de faire attention à ce que mangent mes enfants. Alors si maintenant, même ce qui a été écrit, il ne faut pas s'y fier, c'est assez inquiétant.
Alors le scandale a débuté en Grande-Bretagne, où même si ce n'est pas interdit, manger du cheval est un tabou national. Comment peut-il y avoir une telle différence entre l'annonce qui est faite sur un emballage et ce que contient en réalité un produit? Bonjour Laura Mauchi.
Bonjour.
Alors difficile de voir clair hein, ce matin, grâce à vous, vous allez nous y aider. Pour comprendre, il faut déjà savoir que Findus fait appel à plusieurs sous-traitants de plusieurs pays différents.
Oui, avant qu'une barquette de lasagne ou de hachis Findus n'arrive dans votre supermarché, il y a de nombreux intermédiaires. Et même la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes qui mène l'enquête a du mal à s'y retrouver. Comigel, une entreprise basée à Metz dont l'usine est au Luxembourg, produit les plats incriminés pour Findus, sauf qu'elle-même se fournit ailleurs. Et selon Comigel, la faille viendrait de Spanghero, un fournisseur français qui se fournit lui-même en Roumanie. C'est à s'y perdre, mais le patron Barthélémy Aguerre se défend au micro de Patrick.
C'est de la viande congelée, on n'est pas le nez dedans. C'est de la viande congelée en paqueté que nous achetons sur le marché européen pour le revendre à notre client, puisque notre client nous demande ce type de viande. C'est quand même inquiétant, parce que les gens ne font pas forcément la différence. Nous, on considère qu'on a été trompé, on va se retourner contre notre fournisseur, bien sûr.
Alors pour le moment, la DGCCRF reste prudente et ne confirme rien. Bien compliqué donc de tracer cette viande de cheval. Il reste à savoir si ces lots sont une erreur d'étiquetage ou une fraude volontaire, ce qui est beaucoup plus grave. Et dans ce cas-là, des sanctions pourraient être prises, selon le gouvernement.
Merci Laurent Mautier. On a envie de dire la vache,
ouais,
justement.
Non, mais le problème de la malbouffe, Laurent, c'est terrible quand on sait que le moindre ingrédient consommé a une moyenne de 2000 km parcourus pour venir jusque dans notre assiette. C'est préoccupant. Ça me fait penser à un débat et un combat qu'on a mené avec un chef étoilé, Yannick Aleno, pour sauver la dernière ferme de Paris, la dernière trace de ruralité et de terroir dans la ville. On a perdu, personne ne nous a entendu et défendu parce qu'il a fallu créer des logements. Et je trouve que cette idée traduit bien le fait qu'on marche un peu sur la tête aujourd'hui, qu'on refuse le fait de fabriquer chez nous et qu'on se laisse aller à ce genre de dérive et à ce genre. Parce que effectivement, on s'y perd, on ne sait plus du tout, là. Il n'y a plus de traçabilité, on n'arrive plus à savoir d'où viennent les produits qu'on mange. Là aussi, il y a un vrai débat de société et une vraie réflexion à se poser sur la bouffe. Vous savez que l'Empire romain est mort de ça, on dit que c'est à cause des barbares et de l'armée, mais ce n'est pas vrai, c'est parce que les citoyens romains se sont mis à mal bouffer, donc ils ont arrêté de payer leurs impôts.
Oui, c'est un bon raccourci.
C'est vrai. C'est authentique, hein, c'est authentique.
Mais je vous crois, sachez que RTL s'installera évidemment pendant 15 jours au Salon de l'agriculture, parce que c'est très important pour nous, évidemment, aussi. Qu'avez-vous regardé hier soir à la télévision, Laurent Deutsch?
J'ai écouté, j'étais au théâtre, dans le Songe d'une idée, que nous avons repris la Porte Saint-Martin.
Je suis
une petite pub déguisée.
Non, on va en parler
tout à l'heure. J'ai pas regardé la télé hier soir, du coup.
Donc, vous ne connaissez pas le palmarès des victoires de la musique?
Eh non, mais je suis venu faire le journal inattendu exprès pour m'instruire.
Est-ce que vous savez ce que c'est que ça?
Oui. C'était le vote du public, d'ailleurs on voyait des spots à la télévision, je sais plus le nom, mais le mec, c'est un mec qui fait du skate, le clip. Il fait du skate dans la ville.
Ah oui, le clip, parce que sinon ils sont quatre. C2C.
C2C.
Collectif de DJ nantais, ils ont remporté.
On se dans la grande vadrouille. C2C, Ami, Agnew.
Ils ont remporté 4 victoires de la musique hier soir. Sacré meilleur artiste de l'année, artiste masculin, un grand artiste, je trouve, méconnu du grand public, lui aussi breton, Dominika.
Oh toi, dis tout bas, on dansait.
Vous connaissez Dominika?
Non, pas du tout.
Ah, magnifique. Vous qui aimez...
Moi, je connais Alexis HK, qui ressemble un peu d'ailleurs dans sa tonalité à Dominika.
Ah bah alors, vous adorerez parce que...
Je prends.
Il a des textes extraordinaires, très belles mélodies.
Vous n'avez pas un petit single qui traîne?
Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Pascal Choisy, notre réalisateur en régie...
Vous êtes bien aimable. Normalement, avec le journal inattendu, on repart avec plein de cadeaux. Hein.
Oui, c'est ça qui est inattendu.
De toute façon, sinon je repars avec le micro, là.
Non, là, il dit non. Là, Pascal Choisy, il ne saurait plus du tout, il dit non. Récompensé également, sans passer par la case révélation, Lou Doyon, j'allais dire sacrée chanteuse de l'année, mais on ne dit pas comme ça, on dit artiste féminine de l'année. La fille de Jane Birkin ne s'y attendait pas.
And for a second I see you there. Ah bah c'est délirant, je pense que j'ai pas encore compris. C'est demain matin, je vais me marrer toute seule quand je vais le voir dans ma cuisine. Je vais faire Oui, c'était vrai. Mais ah, c'est génial. On ne peut pas rêver mieux. Ici, après, j'ai l'impression d'être entourée de grands et d'être d'un gnome. Ma mère est d'une générosité folle, donc c'est vrai que j'ai eu de la chance d'être élevée par quelqu'un de très très généreux. Et de l'autre côté, avec mon père, quelqu'un de très attentif. Ça peut que aider. Oui, j'ai de la chance.
C'est beau quand même, non?
Ouais, ça contredit un petit peu ce que disait Johnny Hallyday dans sa biographie. Comme quoi, quand les enfants fils d'eux n'ont pas de talent, il parlait de son fils David. Mm-hmm. Et Lou Doyon vient montrer que Johnny n'a pas forcément raison.
Exactement. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Je me suis laissé dire que vous écoutiez quelqu'un qui n'était pas du tout nommé hier aux Victoires de la musique.
Il pleut, c'est merveilleux, je t'aime. Nous resterons.
Oui, c'est Pascal Sangla.
Vous écoutez ça en ce moment?
Oui, beaucoup. Ah, c'est quelqu'un qui a. C'est un virtuose. C'est un virtuose, j'aimais beaucoup les musiques de Yann Tiersen, vous savez, dans Amélie
Grand
Poulain,
ami
etc.
de Dominika.
Et voilà, finalement, tout ce, le monde est petit. Hein. Mais il a ce talent-là, il a ce génie-là. En plus, il est comédien, donc sur scène, il est virtuose et magnifique. Et j'ai eu littéralement un coup de cœur pour cet artiste, Pascal Sangla, qui, je crois, est en train maintenant de faire des petits, là, parce qu'il écrit la BO du prochain film de Delphine de Vigan.
Et grâce à vous, il passe sur RTL, en plus, Pascal Sangla.
Il le mérite.
Alors, on va se retrouver juste après la pub pour la suite du journal inattendu de Laurent Deutsch. À tout de suite.
Laurent Deutsch prend les commandes du journal inattendu sur RTL.
Avec Marie Drucker.
2012, année noire pour l'industrie. 2013 sera-t-elle meilleure? Pas si sûr. Quand on s'appelle Goodyear à Amiens, PSA ou Petroplus, Laurent Deutsch, c'est l'avenir de la sidérurgie que vous avez souhaité aborder ce matin. Votre invité est en ligne avec nous. Bonjour Edouard Martin.
Bonjour.
Les auditeurs de RTL vous connaissent bien. Vous êtes le leader de la CFDT à l'usine ArcelorMittal de Florange. Laurent Deutsch, c'est à vous.
Eh bien, bonjour Edouard.
Bonjour Laurent.
Je voulais simplement manifester ma solidarité et le sentiment de révolte qui m'anime face à ce qu'on voit, parce qu'on vous suit depuis maintenant plus d'un an. On a la sensation que il y a un élastique incroyable entre votre douleur, votre révolte avec laquelle on est tous solidaires, parce que finalement c'est l'agriculture qui est complètement abandonnée aujourd'hui, après l'industrie qui est en train de se déserter, où on se dit mais qu'est-ce qui va rester chez nous plus tard. Et quand on vous voit formuler vos vœux, vous faites référence à Jaurès. Il y a une dimension lyrique qui fait que moi j'ai été complètement enthousiaste et solidaire, mais derrière cette dimension littéraire et j'ai envie de dire presque cinématographique qui nous suit dans un scénario, il y a vos vies derrière tout ça. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que vous avez enfin été exaucé? Est-ce qu'il y a un petit peu d'espoir pour 2013?
Edouard Martin.
Oui, alors d'abord, je suis très touché par le témoignage de sympathie, de soutien de Laurent Deutsch. Hein, franchement, ça me touche. Marie Drucker, vous disiez, est-ce que 2013 risque de changer? J'ai l'impression que non. Malheureusement, l'année 2013 s'annonce très difficile. Vous avez vu que Mittal vient d'annoncer aussi en Belgique, pas très loin de chez nous, la fermeture totale de l'usine de Liège, alors qu'il avait promis d'engager des investissements. Donc nous sommes très inquiets. Il nous faudrait franchement un plan Marshall européen. Il faut qu'il y ait une réponse européenne pour savoir. Nous, la question que nous posons, c'est quel modèle de société voulons-nous construire demain en France et en Europe pour les générations à venir? Est-ce que nous rêvons d'un continent où on soit uniquement des agents de service et plus d'industrie? Dans ce cas-là, on a des soucis à se faire. Vous voyez, les pays qui ont choisi cette voie-là sont dans des difficultés encore plus grandes que nous. Et bizarrement, l'Allemagne, qui devient la référence pour beaucoup, qui, elle, protège beaucoup mieux que nous son industrie, c'est le pays qui s'en tire le mieux face à la crise. Donc, oui, l'industrie, on en a besoin. L'acier, il y aura toujours besoin d'acier en Europe et en France.
Laurent Deutsch.
Je voudrais dire deux choses. Moi, j'ai eu la volonté de vous recevoir aujourd'hui et de discuter avec vous est venue. Je crois que c'était la semaine dernière. On vous avait vu molester devant le ministère à Matignon par les CRS. Vous avez été dégagé manu militari comme un malpropre. Et juste après, au niveau des infos, il y avait la rubrique économique où le journaliste économique se vantait et se félicitait ArcelorMittal qui venait de faire des profits. Cet élastique-là était quasiment obscène. Et c'est vraiment ce qui m'a fait totalement basculer dans votre camp, avec l'envie de voir encore une industrie florissante. Il faut savoir que de tout temps, la sidérurgie, le fer, l'acier, ça a été au cœur de nos civilisations. Il faut savoir que les Celtes, au 4e siècle avant Jésus-Christ, ont pris le dessus sur d'autres civilisations grâce au fer, grâce à l'acier. Autrefois, dans les villages, celui qu'on écoutait, c'était le forgeron. La Florange, c'est sur une route romaine qui est l'axe principal, la colonne vertébrale de l'Europe dans l'Antiquité. Donc aujourd'hui, de vouloir abandonner complètement Florange et la sidérurgie lorraine, c'est finalement se couper la mémoire, quoi. C'est devenir amnésique. Mais, et qu'est-ce qui va nous rester?
Du coup, j'ai une question, Edouard Martin, pour vous, sur l'avenir, justement. Le directeur général d'ArcelorMittal France, interrogé jeudi de cette semaine, sur l'avenir du site de Florange, dont vous faites partie, Edouard Martin, a affirmé vouloir investir 180 millions d'euros pour en faire un centre d'excellence pour l'automobile, développer les nouveaux aciers, parce que pour lui, c'est ça qui sauvera l'industrie dans les années qui viennent. Quelle est votre réaction à ces propos?
Bon, déjà, Hervé Bourrier, c'est le roi des menteurs. Hein. D'abord, c'est un exécutant, il est aux ordres de Mittal. Il ne dit que ce que Mittal l'autorise à dire. Oui, on espère bien que cette fois-ci, le gouvernement va vraiment imposer les investissements que Mittal aurait cédé. Mais nous sommes très, très inquiets, parce que même lorsque Mittal signe des engagements, il y a toujours un moment où il va expliquer que finalement, vu la conjoncture, vu la situation, il n'arrivera pas à les tenir. Il faut savoir que le fil rouge de M. Mittal, c'était moins cher ailleurs. Et là, je remercie Laurent Deutsch d'avoir soulevé la joie de ce journaliste qui commentait les résultats du groupe ArcelorMittal. Et donc, encore une fois, certains pensent qu'effectivement, l'acier est moins cher ailleurs. Et ils ont raison. Sauf que si le seul débat qui vaille dans ce pays, c'est que c'est moins cher ailleurs, il n'y a pas que l'acier qui est moins cher ailleurs. Tout est moins cher ailleurs. Les économistes, les journalistes, les médecins, donc on part tous ailleurs. On ferme la boutique France et on part tous en Chine, payé à 80 $ par mois, 70 heures par semaine et surtout à se taire.
Bon, merci beaucoup.
C'est le modèle de société que nous ne voulons pas. Et je tiens à remercier Laurent Deutsch. Franchement, on a un très beau défenseur de notre mouvement, parce qu'en plus, il a le regard historien. Et ben, bravo et merci beaucoup, Laurent.
Bah, c'est nous qui vous remercions, Edouard Martin.
Je ne vais pas dire historien, parce que je vais me faire taper sur les doigts. Donc, non, simplement,
mais on a compris l'idée.
Non, mais c'est vrai, c'est incroyable de se rendre compte à quel point. Qu'est-ce qu'on va montrer à nos enfants plus tard? Moi, j'ai grandi dans l'Ouest, et quand j'étais petit avec mon père sur un port, il y avait 5, 6, 7 marins-pêcheurs professionnels. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y a plus que des bateaux de touristes pour raconter comment c'était avant. Non, c'est pas avant, c'est maintenant. Et quand en plus, ce maintenant-là est en train de... Il y a des milliers de vies comme ça. Parce que moi, finalement, je suis un spectateur de tout ça. J'ai été révolté parce que ce que j'ai vu à la télévision. Mais ce monsieur Martin, c'est sa vie à lui. Et on joue avec des vies. On a l'impression que c'est des Don Quichotte qui s'attaquent à des moulins à vent. Tout à l'heure, on parlait de la bouffe, on ne sait plus d'où ça vient. C'est vrai que ce sont des multinationales tentaculaires où chacun se balance la responsabilité de se dire, bah non, mais c'est un prestataire, etc. Il serait temps de reconnecter tout ça avec la réalité de la vie des gens.
Merci beaucoup, Edouard Martin, d'avoir été l'invité de Laurent Deutsch. Et bientôt, le rédacteur en chef du journal Inattendu, parce qu'on a eu un problème de date, mais je compte sur vous, évidemment, dans les semaines qui viennent. Hein, on prendra le temps de parler avec vous pendant une heure. Merci,
merci beaucoup,
infiniment. À bientôt, au revoir. Autre sujet que vous avez voulu évoquer, Laurent Deutsch, l'installation prochaine dans l'Orne, en Normandie, d'une déchetterie au cœur des haras.
Ah oui, là, on est dans le burlesque, là.
Oui, et à quelques kilomètres du haras du pain, le Versailles du cheval, hein,
exactement,
puisque c'est Louis XIV qui avait décidé de créer ce haras.
Et vous savez pour quelle raison?
Alors dites-le-nous.
Pour la qualité des pâturages et de la qualité de l'air et de l'eau.
Pour en faire des étalons.
Exactement. Et aujourd'hui, tous les grands cracks de l'équitation française viennent systématiquement de la région et en grande partie du haras du pain.
Alors depuis 7 ans, de nombreuses associations militent pour que la déchetterie ne voit pas le jour, mais les travaux sont déjà bien avancés. Ce soir, lors d'une réunion publique, elles demanderont le classement des terres au patrimoine mondial de l'UNESCO. Frédéric Veil, vous avez rencontré les opposants à ce projet.
Alors, pour mieux comprendre la colère des opposants à ce projet, rendez-vous d'abord à 500 mètres du panneau d'entrée du village de Nonant-les-Pins sur le site du futur centre de déchets qui est en pleine construction et interdit d'accès au public d'ailleurs. Dès que l'on s'approche un peu, on vous fait vite comprendre qu'il vaut mieux rebrousser chemin. C'est pourtant à cet endroit que j'ai rencontré Noëlle Sandoz. Elle est la présidente de Nonant Environnement.
Voilà, on est sur un terrain de 50 hectares dont 17 hectares seront voués à l'enfouissement de rebuts de broyage automobile et déchets industriels banaux. 17 hectares, c'est, je crois, une dizaine de stades de foot, si ce n'est plus. Le site est très mal choisi parce qu'on est dans une zone vouée à l'élevage depuis Louis XIV, puisque le haras du pain est à moins de 5 km. C'est Louis XIV qui a découvert que les terres ici étaient tellement bonnes qu'il a commencé à y faire de l'élevage. Et donc, ça fait plusieurs siècles qu'on en fait. On voudrait que ça continue.
Et pour illustrer tout cela, direction le haras de Montaigu, là aussi, grosse colère de la propriétaire, Aliette Forien.
On se bat bec et ongles, on n'arrête pas. DE, c'est une boîte qui est très puissante et on ne comprend pas qu'il n'y ait pas eu quand même une volonté politique de stopper ce projet qui paraît aberrant à toutes les personnes à qui on en parle.
Le recours, c'est peut-être cette demande de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO?
Oui, ben parce que je pense que le classement, d'abord, ce serait une protection et ce classement n'est pas du tout utopique parce que ça vaut aussi bien pour cette région que ça vaut pour Saint-Émilion à Bordeaux. C'est vraiment des terres très spécifiques, cheval et élevage.
160 haras sont répertoriés ici, dans un rayon de 20 km autour du futur centre de déchets GDE, qui, cela ne vous surprendra certainement pas, a refusé toute demande d'interview.
Effectivement, parce que nous les avons demandé. Laurent Deutsch.
Bah, y a rien à dire, hein. C'est simplement, est-ce qu'on a envie de voir Versailles se noyer dans la crotte? C'est tout, c'est aussi simple que ça.
Donc ce soir, les associations vont demander le classement des terrains au patrimoine mondial de l'UNESCO. On marque une pause dans un instant, on se retrouve avec Laurent Deutsch pour le rappel des titres, la météo et le portrait de Stéphanie Renouvin, tout de suite.
Le journal inattendu, RTL.
RTL, il est 13h.
Journal inattendu sur RTL.
13h, les titres de l'actualité, Laurent Deutsch, Marie Drucker.
Comment de la viande de cheval a-t-elle pu se retrouver dans des lasagnes estampillées viande bovine de la marque Findus? 3 des plats de la marque ont été retirés des rayons. Une enquête est ouverte pour Dominique Langlois, représentant de l'intersyndicale de la filière bovine. Une fois la viande surgelée, impossible pour le grossiste de faire la différence. À l'œil nu, seule l'étiquette fait foi.
De recevoir un morceau de viande fraîche ou de carcasse, le visuel est très facile. Par contre, une viande surgelée, c'est un bloc de viande hein, qui est emballé. C'est effectivement très difficile visuellement de voir quoi que ce soit. L'étiquetage est censé correspondre à la réalité. Après, c'est du domaine d'éventuelles manipulations ou tromperies.
10 jours, nuit et week-end compris, 110 heures de discussion, souvent intenses et passionnées. Les débats sur le projet de loi sur le mariage homosexuel ont pris fin ce matin à l'aube. C'est le président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, qui a levé la séance. Il était 5h40.
Nous avons donné un bel exemple de ce que peut être l'Assemblée nationale, cœur battant de la démocratie. Nous avons achevé aujourd'hui l'examen des articles du projet de loi. Mais je rappelle que les explications de vote et le vote auront lieu le mardi 12 février. Donc, nous allons avoir l'occasion de nous revoir.
Fatigué, sans fatigué, doute. Là. La baisse de l'aide alimentaire aux plus démunis sera compensée à l'euro près en France. Déclaration ce matin sur RTL de Guillaume Garot, ministre délégué à l'agroalimentaire. Une annonce censée rassurer les associations au lendemain du vote du budget de l'Europe qui prévoit une forte baisse de ses aides. Didier Thillard, directeur de l'action sociale de la Croix-Rouge.
On se félicite de la déclaration de Guillaume Garot. Hein. Ça veut dire que c'est une aide de l'État de plus de 60 millions d'euros. Donc merci en tout cas de répondre si rapidement pour les associations comme nous, pour les associations comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire ou la Fédération des Banques Alimentaires, hein, qui se sont beaucoup mobilisées. Ce serait un véritable succès dans une période où la précarité est de plus en plus importante.
Le tournoi des Six Nations de rugby, deuxième journée. À 18h, le 15 de France affronte le Pays de Galles. Après le fiasco romain, les Bleus sont obligés de l'emporter lors de leurs 4 prochaines rencontres s'ils veulent avoir une chance de remporter le tournoi. Le sélectionneur Philippe Saint-André est chauffé à blanc.
Il va falloir avoir de la rébellion, avoir énormément d'envie, peut-être de la haine aussi, mais de la passion, de l'enthousiasme, de la férocité. Les vrais compétiteurs savent relever la tête dans les moments difficiles. On va voir si on est des compétiteurs de très haut niveau et qu'on montre qu'on est capable d'être une grande nation du rugby et devant notre public gagner les Gallois.
Philippe Saint-André au micro de Jean-Michel Rascol. Évidemment, une rencontre à suivre sur RTL. Le skieur français David Poisson s'est hissé aujourd'hui sur la troisième marche du podium de la descente de Stadtming en Autriche, une épreuve qui compte pour le championnat du monde de descente. Et je suis sûr
que vous aviez dit, il s'est glissé sur le podium, David Poisson.
Mais je suis sûr que vous serez content de savoir que c'est le Norvégien Svindal qui a été sacré champion du monde.
C'est important,
n'est-ce pas? Un mot du temps, Laurent Deutsch.
Ah hélas, le temps sera pluvieux sur toute la moitié ouest cet après-midi. Courage entre la Bretagne et l'Aquitaine. En soirée, il neigera de la Normandie jusqu'au Limousin et ses chutes de neige gagneront le nord, le bassin parisien et les régions centrales au cours de la nuit. En revanche, il fera assez beau dans l'est et dans le midi. Les températures iront de 0 à 10 degrés. Il fera 1 degré à Nancy, courage. 3 à Lyon, courage. 4 à Lille, pas de peau. 5 à Paris, 6 à Toulouse, 8 à Marseille. Ah là là. Et 10 degrés à Lorient et Biarritz.
Vous saviez ce que vous devriez faire?
Non.
Les commentaires des courses de chevaux.
Ah ouais.
Ça vous irait très bien.
Le journal inattendu sur RTL.
Le portrait Stéphanie Renouvin.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Marie, bonjour à tous. Bonjour Laurent Deutsch.
Bonjour Stéphanie.
À vous. À vous moi. Avez des liens tous les deux, bon, c'est compliqué.
Oui, c'est compliqué à expliquer. Allez-y. En deux secondes. Laurent Deutsch, je suis ravie de vous retrouver, souriant, ultra speed, vif et percutant comme toujours. Parce que quand même, hein, vous avez été un peu malmené ces derniers mois. Certains vous ont accusé de manquer de rigueur quand vous racontez l'histoire avec un grand H. Eh bien aujourd'hui, je me mets un peu à votre place, sauf que moi, je vais faire le récit d'une histoire avec un petit H, la vôtre, ce qui ne fait pas de vous un petit homme pour autant. Hein. Et c'est donc ma rigueur à moi que vous jugerez. Et franchement, c'était pas évident de connaître la vérité vu le nombre de fausses infos que vous disséminez, avec plaisir apparemment. Exemple, vous avez dit dans plusieurs interviews que votre père était plombier, ce que j'ai répété naïvement à l'un de vos amis proches qui s'est marré pendant 15 minutes au bout du fil avant de rectifier. Votre père était en fait huissier de justice. Bref, pour accompagner mon portrait, je vous propose de choisir entre 3 morceaux, car la vie, et la vôtre notamment aujourd'hui, c'est quand même toujours mieux en musique. Alors, soit une danse hongroise, je sais que vous avez adoré ça, à rapport j'imagine à vos racines, soit un morceau d'Yvette Horner, puisque vous aimez tellement l'accordéon que vous en jouez, soit le 113, les rappeurs de Vitry-sur-Seine, pour nous prouver que si, vous avez bien 37 ans et que vous pouvez parfois aussi avoir des goûts de Jones. Cela nous révélerait également votre attachement à la culture urbaine et au banlieusard du ciel, les oiseaux et ta mère, film qui vous a donc révélé en 99. Alors, que voulez-vous entendre pendant la découverte de vous-même?
Ah bah si vous avez le hold-up du 113, je veux bien.
J'ai pas le hold-up.
Ah, c'est la meilleure.
Allez, le 113, c'est parti.
On est jeune et ambitieux, parfois vicieux.
Donc c'est bien, Laurent Deutsch, je constate qu'avec la maturité, vous avez appris à faire des choix. Hein, je dis ça parce qu'au début, ça semblait pas si évident pour vous. Effectivement, à 12 ans, vous deviez être footballeur, mais à 15, le FC Nantes trouve que vous ne faites pas le poids, au sens propre. Première grande douleur de votre vie. Mais il y a un autre rêve de gosse, devenir flic haut de gamme, inspecteur pour Interpol en Europe centrale. Mais vous foirez le concours. Bon, c'est pas très grave. En poche, vous avez déjà une licence de philo, une autre de langues orientales, des cours de théâtre, des pubs pour Yop, une série télé pour ados, une passion obsessionnelle pour Paris et l'histoire, et un talent inouï de conteur. Votre pote, réalisateur Jamel Bensalah, dit qu'avec vous, la moindre anecdote devient une histoire passionnante, même le récit d'un coup franc. Et même un de vous était impressionné, c'est dire. Faut dire qu'en plus de la pétillance dans l'œil et dans la vanne, vous êtes hyper cultivé. C'est le fruit de soirées entières passées à bouffer simultanément des Kinder et des livres sur l'histoire de France. Voilà, c'est tout ça à vous. Un pied dans son époque, un autre dans les temps anciens. Vous prenez le métro, mais pour y raconter des vieilleries. Vous mettez des sweats à capuche, mais vous portez le bouc de D'Artagnan. Vous êtes jeune propriétaire, mais d'un moulin à vent du XVIIIe siècle. Pas dans le Perche, hein, comme tous les bobos parisiens. Non, non, sur l'île de Ré. Et en plus, il a de gros problèmes d'infiltration. Et comme votre père n'est pas du tout plombier, enfin bref, vous me suivez, quoi. Je poursuis, vous êtes un papa des temps modernes, concerné et ultra investi. Mais vos filles ne s'appellent pas Zoé et Lola comme les autres, mais Sissi et Colette. Vous avez 37 ans, mais vous avez quitté des rôles de jeunes qui se ressemblent pour incarner de plus en plus de personnages historiques. Sartre, La Fontaine, Fouquet, Mozart. Il paraît même que vous avez un film historique dans le tiroir. Bon, manque de bol, l'homme qui voulut être roi s'est déjà pris, hein, comme titre. Bref, je confirme, vous savez faire un choix. Avant tout, celui d'être différent. Je me demande même si vous ne seriez pas républicain si nous vivions dans une monarchie.
Mm-hmm. Ah bah alors, oui ou pas ?
Non, parce que moi, ce qui me plaît... Alors déjà, voilà, je vais rectifier, on dit vous êtes monarchiste, royaliste, etc. Avant tout, je suis quelqu'un qui réfléchit. Et je réfléchis aux meilleurs moyens d'expression de notre démocratie. Je suis par-dessus tout ces systèmes politiques, je suis démocrate. Et quand on fait, par exemple, référence au mariage homosexuel, au mariage pour tous, on cite en exemple, systématiquement, nos grandes démocraties du Nord. On cite la Norvège, la Suède, le Danemark, les Pays-Bas, la Hollande, on cite aussi l'Angleterre maintenant. Mais j'ai le regret de vous annoncer que toutes ces grandes démocraties sont toutes, finalement, des monarchies parlementaires. Et donc, pourquoi pas réfléchir aux meilleurs moyens d'expression de la démocratie. L'avantage de confisquer le pouvoir suprême, ça nous permet de ne pas avoir quelqu'un qui finalement joue contre l'opposition. D'ailleurs, le mariage homosexuel, moi qui ne m'y oppose pas, je trouve que le débat est formidablement inopportun. Au moment où on est en crise...
Le calendrier, vous voulez dire ?
Ouais, au niveau du calendrier, au moment où on est en crise, on a parlé de tous ces problèmes avec la désertification rurale, la désertification industrielle, à la chute de l'emploi, la malbouffe, tous les problèmes de société qui sont majeurs et fondamentaux. Je crois qu'un débat comme le mariage homosexuel qui inévitablement va opposer une population à une autre et quelque chose qui ne fait pas consensus et qu'il fallait peut-être pas aborder maintenant. Je crois que ce genre de débat, ce genre de réflexion, quand on dit dans 50 tout le monde en aura oublié, on aurait volontairement peut-être plus oublié si on n'était pas en situation de crise comme aujourd'hui où chaque Français doit être l'ami, le soutien de l'autre et l'allié de l'autre et de son prochain. Et je crois que ce débat-là était formidablement inopportun.
Oui, mais c'est difficile quand vous dites je suis pas ceci ou cela, simplement je réfléchis. Ça veut pas dire que tous les gens qui n'ont pas le même point de vue que vous ne réfléchissent pas.
C'est pas ce que je veux dire. Je veux dire simplement, regardez, quand dans une équipe de foot, l'arbitre, il appartient pas à une équipe ou à une autre. Nous, le problème, c'est que le président, il appartient à un camp politique. Il a été donc un militant, il a été engagé, il s'est donc affronté, il a débattu avec d'autres qui, donc, vont, quand il va être élu président, vont naturellement jouer le blocage. Ils vont jouer la défense, les mecs. C'est un match de foot. Un arbitre qui n'est pas d'un camp ou d'un autre, ça permet de pas jouer le blocage et la partie peut se dérouler normalement.
C'est pour ça que vous êtes pour la suppression du président de la République qui, selon vous, ne sert à rien.
Je suis pas pour la suppression du président de la République. Je pense qu'aujourd'hui, et heureusement, l'enjeu, il n'est plus national. L'enjeu, il est européen avant tout. Et l'idée d'un super président qui peut essayer de fédérer toutes les particularités et toutes finalement les problèmes de chacun, c'est peut-être plus nécessaire et plus évident, plus exigeant que d'avoir un président qui va se casser les ailes sur les prérogatives européennes.
Merci beaucoup, Stéphanie Renouvin. Un mot ?
Oui, donc.
Mais mon père était plombier. Mon père était chauffagiste, zingueur, plombier quand il était jeune.
Il a été un peu. Il l'a été. Dans votre famille, je
chauffage
crois.
Dutch à Bondy, Bobigny. Vous pouvez encore, ça existe encore. Hein,
donc
c'est
vous
son
n'êtes
frère.
Pas contestataire alors ?
Non, je suis pas contestataire,
pas
du tout. Non, je pense pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Si, on est toujours contestataire quand il y a quelque chose qui nous choque, heureusement. Mais quand les choses me conviennent, j'ai pas envie de me démarquer pour imprimer une forme de singularité systématique.
Et puis votre père est devenu huissier de justice polonais.
Et serrurier maintenant.
Merci beaucoup, Stéphanie Renouvin. À très vite sur RTL et à tout de suite après la pub.
Laurent Dutch prend les commandes du journal inattendu sur RTL
avec Marie Drucker.
Oui, on poursuivait la discussion pendant la coupure pub. Et je disais, finalement, vous ne faites que ce qui vous intéresse, c'est-à-dire la bande dessinée, le théâtre avec Shakespeare, finalement assez peu de cinéma, parce que j'imagine que vous refusez beaucoup de choses.
Je refuse les comédies, et comme j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir exprimer ma passion pour l'histoire de France, là je viens effectivement de publier une bande dessinée qui raconte les grandes figures de notre histoire, et surtout le temps, la manière dont les choses se posaient, sans chausser les lunettes de la modernité. J'adore ça, de raconter, et donc de me servir là pour cette BD-là de François Ier du Connétable de Bourbon pour raconter la Renaissance et le XVIe siècle. Ouais, c'est ma passion, ça m'attire plus peut-être que de jouer la comédie.
Donc ça
je
veut
parler
dire
les autres.
Ça veut dire qu'on ne vous propose pas de grands rôles dramatiques au cinéma?
Non, c'est on propose exclusivement des comédies.
Comment vous l'expliquez?
J'en sais rien.
Étant donné que vous êtes passé, je parle au regard du grand public depuis un certain nombre d'années maintenant, par l'histoire, par des rôles à la télévision, au théâtre, comment vous expliquez que personne au cinéma, il y a moins d'acteurs en France par exemple qu'aux États-Unis, donc pourquoi on va pas vous chercher pour des rôles dramatiques?
Je sais pas à moi que vous posez cette question-là, parce que je suis très disponible, hein, mon numéro de téléphone est dans l'annuaire. Mais
ah bah on va le donner d'ailleurs.
Non mais je sais pas, peut-être qu'aujourd'hui je passe pour quelqu'un qui est totalement tourné du côté de la dimension historique. On a besoin de référencer les gens, on a besoin de leur dire, bah lui il est capable de faire ça, il est capable de faire ça. Ça s'appelle s'assurer. Aujourd'hui on vit dans un monde où le principe de précaution fait foi, et donc on préfère
s'assurer pour tout.
On s'assure pour tout. Les derniers courageux finalement c'est les marins du Vendée Globe, et pour les acteurs c'est pareil, on dit non lui c'est pas son truc, on va prendre celui-là, c'est estampillé, et je peux comprendre ceux qui misent tout. On a envie d'avoir un retour sur investissement sûr, des garanties, ça s'appelle de s'assurer. Et effectivement je fais pas partie de la dimension dramatique du cinéma peut-être.
Elle a raison Stéphanie Renouvin dans son portrait quand elle dit que vous aimez bien un peu brouiller les pistes et que vous êtes parfois vous-même à l'origine de certaines rumeurs qui circulent, et ça vous a fait sourire d'ailleurs quand
elle
dit ça.
Ouais, par rapport à mon père, parce que c'est vrai qu'il a... Il a été plombier, il a été plombier, il était en stage chez son père, il a repris la boutique de son père, et finalement le droit lui a permis d'exercer le métier de huissier de justice, mais... Quand on me pose la question, parfois c'est vrai, je peux dire, mon père il est plombier. J'avoue qu'il y avait aussi peut-être une petite honte, une petite gêne d'avouer que mon père faisait ce métier-là qui est hyper compliqué. Et pour l'avoir vu se faire braquer plusieurs fois par des gens avec des fusils de chasse ou autre chose.
Lequel, plombier ou huissier de justice?
Ah oui. Non, plombier ça va.
Ça va en général.
Quand il niquait un siphon, ça n'avait pas ce genre de conséquences.
On est plutôt content de les voir, les plombiers en général.
Ouais, c'était plutôt rassurant, alors que l'huissier c'était plus complexe. Non, mais c'est un métier vraiment, vraiment particulier, parce que c'est un métier qui est finalement au service de ceux qui n'ont pas, qui ont aussi besoin d'aide. Une réponse à un appel, à une situation délicate, et on vient aider les gens pour exiger de la part de l'autre partie remboursement ou réparation.
Non mais quand on lit sur Wikipédia par exemple, alors il faut pas tout croire tout ce qu'il y a sur Wikipédia, mais c'est un réflexe aujourd'hui, quand on reçoit un invité, on regarde ce qui se dit sur lui, sur sa fiche Wikipédia, parce que parfois il l'alimente lui-même.
Ouais.
Vous, il y a écrit Laurent Deutsch, de son vrai nom Laszlo Matejkowicz. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Alors ça, je remercie un ami d'enfance qui s'appelle Hassan Kouba, qui est un hacker professionnel d'internet et qui a été raconté ça, parce qu'il se trouve que mon nom de code sur les jeux vidéo, c'était Laszlo Matejkowicz. Quand j'étais petit, je me faisais appeler Laszlo. C'est un prénom hongrois que j'aimais beaucoup, plutôt que Laurent. Et c'est resté dans les jeux vidéo, sur les jeux de foot, etc. Je me faisais appeler Laszlo Matejkowicz, et c'est resté sur Wikipédia.
Mais votre prénom de naissance, c'est bien Laurent, Laurent, R-A-N-T.
Tout à fait.
C'est bien ça.
Qui veut dire Philippe, d'ailleurs, pour revenir au haras du pain. Et Philippe, donc, comme chacun sait, c'est celui qui aime le cheval. Mais pas au point d'en bouffer, hein, j'avertis Monsieur Findus.
Monsieur Findus. Je suis sûr que vous faisiez des jeux de rôle avec vos copains dans la forêt quand vous étiez jeune.
Oui, j'étais scout.
Ah, voilà.
Ouais, j'adorais ça. D'ailleurs, vous avez vu Moonrise Kingdom?
Non.
De Sam Anderson.
Non. C'est formidable.
Ouais, sublime. Mmh. J'étais scout. C'était un peu toute mon époque.
Est-ce qu'on marque une pause tout de suite? Oui, on marque une pause tout de suite. Voilà. Puis on revient juste après avec, une surprise. J'espère qu'elle va vous faire plaisir.
Laurent Deutsch prend les commandes du journal inattendu sur RTL.
Avec Marie Drucker.
Et on a une surprise pour vous, Laurent Deutsch. C'est quelqu'un, je pense, que vous admirez, j'espère, parce que sinon c'est vraiment un bide total, en fait.
Un flop.
C'est ça. Et qui, je pense, vous aime beaucoup aussi, puisqu'il a répondu à notre proposition avec beaucoup d'enthousiasme. C'est quelqu'un qui est en ligne, qui ne va pas donner son nom, mais qui va tenter de vous mettre sur la voie pour deviner. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous pour faire une surprise à Laurent Deutsch. Alors dites-nous, sans dire votre nom, 2-3 éléments qui pourraient vous identifier.
Bien. Alors, j'appartiens pas au même domaine professionnel que Laurent Deutsch, mais j'appartiens à un secteur professionnel qui le séduit et qui aurait pu peut-être, faire partie de ce milieu professionnel.
Oh là là, attendez, c'est un joueur de foot, c'est un ancien joueur de ligue. Vous avez joué à Séville en 82 avec l'équipe de France?
Quelle date?
Avez-vous joué dans l'équipe de France?
Oui.
Ah, est-ce que vous êtes plutôt milieu de terrain, donneur de passe extraordinaire pour Marius Trésor?
Je peux pas me permettre.
Allez-y.
À la Giresse.
Mais oui.
Oh là là, ravi et enchanté.
Non, c'est moi qui le suis, c'est vrai.
Merci Alain Giresse d'être avec nous.
Oh là, quelle chance.
Mais non, mais en plus, on vous a pris en ligne tout de suite parce que pendant la pub, il y a des écrans de télévision avec les chaînes d'infos en continu dans le ouais. studio et vous étiez déjà en train de commenter le football.
Il y a le PSG qui a éclaté Bastia 3-1. Hein. Oui, c'était assez pas mal. Mais non, mais Alain Giresse. Alors souvent, moi, on me dit, vous étiez petit, mais il y avait des petits au foot comme Alain Giresse, par exemple. Mais je sais pas si vous avez vu le frigo que c'est, le mec, c'est un Golgoth, un athlète. Il avait des jambes, c'était trois fois le tour de ma taille. Et c'était des vrais athlètes. Et moi, j'ai jamais eu cette dimension-là.
Et encore, Alain Giresse, le corps des footballeurs aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, vous êtes entraîneur, hein, vous entraînez l'équipe du Sénégal. Mais est-ce que aujourd'hui, vous trouvez pas, c'est hallucinant quand on voit les images d'aujourd'hui, les cuisses des footballeurs, c'est pas les mêmes que les vôtres à l'époque.
Et comme les rugbymen, exactement. Oui, ben écoutez, il y a des moyens. La musculation s'est introduite dans le domaine du football aussi, également. Mais surtout, même le haut du corps a été très sollicité. Effectivement, ça donne ça. Mais il a raison, Laurent Dutch, quand il dit qu'au niveau des cuisses, j'avais ce qu'il faut. Heureusement.
C'était des jambons, Alain Giresse. Attendez, les cuisses énormes.
J'avais une bonne assise.
Son fils qui est professionnel, je crois qu'il a des cuisses moins fortes, moins larges que les vôtres.
Hein. Oui, tout à fait. Mais je n'avais pas le pied gauche que Laurent Dutch.
Ah, c'est vrai. Ah, ça, c'est
très bon pied gauche, Laurent Dutch.
Compliment de fou. Je sais plus où je me mets. Je suis rouge comme la station RTL.
Merci beaucoup Alain Giresse d'avoir été avec nous. Juste une question, je disais vous êtes entraîneur depuis peu hein, d'ailleurs de l'équipe du Sénégal. Vous avez entraîné le Mali récemment aussi. Oui. Comment vous vivez maintenant avec un peu plus de distance l'opération franco-malienne, ce qui se passe en ce moment, les événements?
Ma première réaction, c'est de dire heureusement que la France est intervenue. Moi, j'ai vécu le coup d'État au Mali et tout ce qui est en suivi. C'était vraiment très pénible, très angoissant et inquiétant. Et si la France n'était pas intervenue, je crois que ça aurait été un chaos horrible pour le Mali. Heureusement que tout ça a pu se régler, va se régler, j'espère.
Merci beaucoup Alain Giresse d'avoir été la surprise de Laurent Dutch
de l'équipe de France
sur RTL. Extraordinaire.
Gana Giresse.
Mmh. Champion d'Europe 1984, grande star de l'équipe de France des années 80. Merci beaucoup et à très bientôt. Ça vous fait plaisir?
Ah ouais, je suis admiratif. Vous savez, j'ai eu la chance de jouer avec des très grands comédiens impressionnants.
J'ai cru que vous alliez dire avec des très grands footballeurs.
Non, justement, mais quand je suis comédien, finalement, je suis engagé sur mes capacités, sur mes qualités. Donc j'ai un rapport d'égal à égal avec mon partenaire. Ça m'impressionne pas. Les footballeurs, eux, ont réussi là où moi j'ai échoué. Donc j'ai une déférence absolue, une vénération et surtout un sentiment d'infériorité par rapport à eux. C'est pour ça que je serais toujours respectueux de tous les footballeurs, quels qu'ils soient, même ceux qui peuvent paraître les plus iconoclastes, et désagréables, insupportables. Moi, je sais ce qui se cache derrière. Je sais les efforts qu'ils ont dû développer à partir de 10-12 ans quand ils ont dû quitter leur famille et bosser comme des tarés pour s'en sortir. Donc jamais je pourrais critiquer le moindre footballeur, même le plus insupportable possible.
Alors aujourd'hui, vous êtes sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin. Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été.
Par exemple, Ribéry, vous vous rappelez, avec la Coupe du Monde, il était insupportable.
Mais rien à voir avec Shakespeare, en fait.
Très grand joueur. Oui, pardon, parlons de Shakespeare.
Ah, on peut continuer sur le foot, si vous voulez.
Bah, Ribéry, c'est un peu le Puck du Songe d'une nuit d'été, quoi. Il est un peu inclassable.
Magnifique,
pas trop
la transition. Ouais. Merci, Laurent Dutch. Vous êtes un professionnel. Et rédacteur en chef du journal Inattendu, c'est normal. Oui, donc Puck que vous interprétez, donc cette espèce de petit personnage féerique. Ouais, c'est considéré milieu du 16e siècle, ouais. Le Songe d'une nuit d'été, considéré comme une comédie. Qu'est-ce qu'il y a de moderne?
Ah ben parce que comme tous les grands génies, ils sont indémodables et intemporels. Tous les problèmes de société qui se posent, d'ailleurs les mariages forcés, les mariages de raison, le protocole, le fait de pas se marier avec tout et n'importe qui, le fait que l'amour ne doit pas être le premier des critères, c'est très présent dans la pièce parce que Le Songe d'une nuit d'été, c'est justement l'amusement de Shakespeare de se dire bon alors laissons aller tous nos codes, la raison d'état, la société, les contrats sociaux, moraux, etc. Tout ce qu'on veut. Qu'est-ce qui se passe si on plonge des amoureux, des amants dans une forêt la nuit? Et vous savez la forêt depuis toujours historiquement, c'est un peu l'inconscient, c'est très freudien. On dit que Freud a inventé la psychanalyse, c'est pas vrai, c'est Shakespeare. Il y a tout dans Le Songe d'une nuit d'été. Il y a la dimension sociale, attention, on ne doit pas faire n'importe quoi, et la dimension affective et pulsionnelle, passionnelle. Dans une forêt, vous faites tout ce que vous voulez.
Alors...
tout est possible. Donc c'est un conte de fées, il y a tout. Il y a de la magie, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de l'ambition, de la lutte pour le pouvoir, et un nain.
On va voir si tout est possible, justement. L'invité de la semaine dernière, Claire Gibault, chef d'orchestre, vous pose une question, Laurent Dutch.
Bonjour Laurent Dutch, c'est Claire Gibault. Alors, je sais que on est originaire de la même zone de la France, de la Sarthe. Vous avez vécu à Sablé-sur-Sarthe, où j'ai appris à nager. Je sais aussi que vous avez incarné
Amadeus, imaginez, pour moi, vous avez des atouts extraordinaires. Donc j'espère, c'est cette question que je voudrais vous poser, que vous accepteriez un jour d'être acteur, récitant avec le Paris Mozart Orchestra sous ma direction.
Et je pense que Claire Gibault est à côté de son transistor et attend la réponse.
Écoutez, moi c'est vrai que Mozart, j'ai tout joué, hein, sauf la musique. Mais pourquoi pas ? Mais attention, je suis très très mauvais, je n'ai pas du tout l'oreille absolue et je risque de tout faire dérailler.
Non, parce que le Paris Mozart Orchestra, en fait, amène la musique dans des endroits où souvent elle n'entre pas pour de mauvaises raisons, parce qu'on pense que c'est réservé à une élite, etc. Donc elle va dans les collèges de ZEP, Claire Gibault, avec son ensemble. Et Robin Renucci, par exemple, comédien lui aussi,
est venu chanteur et musicien,
faire des lectures. Je pense, c'est une grande chef d'orchestre. Je pense que si elle vous le propose, c'est qu'elle pense que vous êtes à la hauteur.
Écoutez, je relève le défi. Faudra sélectionner l'endroit.
Écoutez, je pense qu'elle est très heureuse si elle vous entend.
Je relève le gant.
Et on sera les témoins de ça. Merci beaucoup.
On va faire fuir les gens des ZEP. Si vous avez besoin de ça. Et en plus, ils font venir un mauvais chanteur. Vraiment, ils se foutent de notre gueule.
Merci Laurent Deutsch.
Merci à vous. Merci de m'avoir reçu.
En attendant de savoir si vous êtes un mauvais chanteur, vous êtes un bon acteur et vous êtes tous les soirs sur la scène du théâtre de la Porte Saint-Martin dans Shakespeare, le songe d'une nuit d'été.
Exactement. On est arrivé avec les cloches de Notre-Dame et on repart avec les cloches de Pâques, donc jusqu'au mois d'avril.
Et je serai le Bourdon Marie. Merci beaucoup.
Merci
Laurent Deutsch. À très bientôt au théâtre. Ou ailleurs. Tout de suite, itinéraire d'un auditeur gâté avec Éric Jean-Jean et Jean-Sébastien Petit-Demange. Ah, lequel sera Puck ? Les deux le méritent. Hein.
Ouais, mais vous n'êtes pas un bourdon, vous êtes une très jolie abeille.
Je vous embrasse, messieurs. Bon après-midi sur RTL.
Le journal inattendu. RTL. Vous écoutez RTL.